20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Sport sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une heure d'actualité sportive. On a énormément de choses à vous dire ce soir. Le débat de la semaine dernière s'est prolongé encore cette semaine puisqu'il s'est encore passé des choses dans le monde du football. Mais on va évoquer d'abord, comme vous le savez, l'actualité locale du sport angevin du 49 bien évidemment. Mais pour parler de l'ensemble de ces sujets, je suis accompagné d'une fine équipe. D'abord, on salue quand même Cédric. À distance, petit mal de crâne pour lui. On espère qu'il va vite se rétablir et qu'il va vite nous revenir en forme. Mais pour débuter, comme à chaque fois, je vais lancer notre meneur de jeu à nous, le réalisateur de l'émission. Comment vas-tu, Faustin ?
Ça va. Salut tout le monde. Salut Florian. Ça va très bien. Malgré une défaite pour moi ce week-end, sublimée d'une blessure, blessure légère. Normalement, je suis de retour là, dans deux semaines pour un match de coupe.
Ah, j'espère bien. Blessure où, du coup ?
Genou. Petite tendinite, a priori, sur l'insertion du tendon du genou. C'est des choses qui arrivent.
Ce qui est bien avec Faustin, c'est qu'on découvre chaque partie du corps humain tout au long de la saison, grâce à lui.
Ouais, je serais calé en anatomie, je peux aller faire une fac de bio, je pense.
Ouais ?
Bon, peut-être pas non plus.
Peut-être pas non plus. Tu vas continuer tes études quand même, voilà. Dans ton domaine, et on va laisser la biologie aux experts, on va dire.
Exactement.
Exactement. Amaury est là aussi, blessure aussi pour lui.
Ouais, j'étais prêt à dire que je prenais la place de Faustin pour les blessures, mais il m'a devancé du coup. Ouais, moi ça date d'hier soir, la barre de développé couché qui a fait mal entre l'épaule et le pec. J'ai pas trop compris, mais on a stoppé la séance. On espère que ça va le faire.
Voilà. Là. Bon, on a un dernier homme avec nous quand même. J'espère que t'es pas blessé, Mathéo.
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Ça va très très bien de mon côté. Tout est fonctionnel, tout marche bien.
C'est bon.
C'est tant mieux, on va dire. Ça donne pas envie d'être blessé. Tout ce que nous racontent les chroniqueurs autour de cette table. Désolé Amaury, hein. Désolé Faustin, mais je suis très bien avec mes membres en place et pas cassé.
C'est les deux plus gros sportifs de la bande.
Bah exactement. Pourtant, c'est peut-être aussi pour ça.
Et c'est eux qui sont blessés. Nous, on évite les blessures. Ouais. Bon, après, il y a les virus qui ont touché un peu quand même.
C'est ça. On va avoir peut-être une fracture des yeux ce soir en Ligue des Champions s'il y a beaucoup de buts, s'il se passe des choses grandioses. Mais non, au niveau des autres parties du corps, ce sera tranquille. Ça.
L'idée d'aller à la salle après avoir couru déjà en début de soirée, je pense que la fatigue, il y a un moment, faut savoir dire
stop. Je suis intermittent aussi.
T'infliges à ton corps des choses qui sont pas forcément normales, on va dire.
Ouais, peut-être.
Bon, on va évoquer, comme vous le savez, l'actualité du 49 dans un premier temps. On évoquera aussi la semaine du SCO, parce que la semaine dernière, on était quand même plutôt confiants. On était heureux de voir ce SCO en quart de finale de Coupe de France. On espérait une accession pour les demi-finales et malheureusement, patatras, une fameuse séance de tir au but est passée par là et élimination pour le SCO. On va forcément en parler aussi avec la défaite de ce week-end 4-0 contre Toulouse. On va évoquer le PSG-Liverpool de demain, bien évidemment. Et on a une grosse actu internationale. Un très très gros journal, on va pouvoir en parler avant de retrouver des invités dans les prochaines semaines et on va quand même prendre le temps de parler un peu d'actu international pour évoquer ce sport qui nous fait tant rêver. On va commencer avec toi, Faustin. Qu'est-ce qui se passe dans la planète basket du 49 en ce moment?
Et bah, pour l'UFA, pas grand chose, parce qu'il n'y a pas eu de match depuis le match contre Basketland d'il y a deux semaines, mais elle joue dimanche contre Charnay. Du côté de l'EAB, c'est une victoire contre Feur, 93 à 80, notamment grâce à un énorme quatrième quart-temps, qui est des Angevins, qui ont mis 29 points en encaissant seulement 14, leur permettant de sécuriser cette victoire pour ce premier match de la seconde phase de National 1. Du côté de Cholet, c'est le contraire, deux défaites cette semaine, deux défaites qui font mal, la première en Coupe de France, 101 à 82 contre Le Mans, puis en Betclic Elite dans un match importantissime face à Monaco. Les Choletais sont inclinés 95 à 84. Heureusement pour eux, Paris Basket a également perdu contre Saint-Quentin et reste donc à égalité. Monaco sont eux et lui, premier, mais avec un match de moins.
Ouais.
Donc on peut encore y croire pour une première place au vu des, en fonction des résultats de Monaco.
Le Mans, c'est vraiment la bête noire. Hein. Après l'élimination en semaine des As, en Leaders Cup, ouais, la semaine des As, c'était par le passé. Putain, je vieillis d'un coup là, c'est vrai. Mais en Leaders Cup, la Coupe de France élimination, ouais. Ils vont affronter à nouveau Le Mans dans les prochaines semaines. Hein. D'ici 2-3 semaines, il me semble qu'il y a de nouveau un match contre Le Mans. Voilà, il va falloir tenir la barque pour essayer de continuer cette saison. Mais tu l'as toujours annoncé, t'as toujours tu gardais toujours en mémoire le fait que Cholet à un moment donné aussi avait toujours ce petit passage à vide.
Ce rebais en deuxième partie de saison, voilà. Ça arrive souvent.
Mais on va voir si ça va durer ou non, en tout cas pour Cholet Basket. Mais on sera toujours à l'affût des résultats et on en parlera. Il y a un match contre Saragosse ce soir ou demain?
C'est demain soir. Demain soir. Voilà, quart de finale aller de Coupe d'Europe.
C'est là-bas, il me semble en plus.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils se déplacent là-bas d'abord avant de recevoir la semaine prochaine.
Exactement.
Les Espagnols. On va continuer l'actualité du 49 avec les Ducs d'Angers. Les Ducs d'Angers qui ont démarré leur quart de finale après leur succès forcément en Coupe de France. Ils sont en play-off, ils affrontent Chamonix, ils ont perdu le premier match vendredi soir, ils ont remporté le second samedi en fin d'après-midi et ils sont là actuellement, le match a débuté depuis 8 minutes maintenant du côté de Chamonix pour ce match 3. Retour potentiel, c'est même pas un retour potentiel, il y aura un retour samedi du coup pour un match d'appui, un match 5, 3-4-5, ouais, un match 5. Pour les Ducs d'Angers, on va parler aussi un peu volleyball avant de te passer la main à Maury. Le volley, le SCO a eu deux défaites ce week-end en National 2 avec une défaite 3-7-1 pour les garçons face à Laval et une défaite pour les jeunes filles, enfin pour les filles, pour l'équipe féminine 3-7-1-1 également contre Saint-Cloud. Il va falloir essayer d'aller chercher des victoires, notamment pour les garçons, pour les filles. Au moins une sur les 6 derniers matchs, le maintien serait garanti et sûr et certain qu'elles resteront en National 2. Pour les garçons, ça me paraît un peu plus compliqué. La donne va être difficile, même si pour avoir discuté avec le capitaine Salim Bellani, c'est vrai que ils peuvent encore y croire, mais il va falloir quand même accrocher. Là, ils ont affronté en plus les deux premiers de la poule. Le calendrier va être un peu plus tranquille et flexible, mais on va voir ce que ça va donner. Ah, en tout cas, la saison, il la prépare déjà pour l'année prochaine, N2 ou N3. Elle est déjà en train de se préparer dès maintenant, dès le mois de mars 2025. On va passer avec toi, avec le handball à Maury. C'est toujours un peu compliqué pour le SCO, mais on essaye d'y croire.
Et on essaye d'y croire, et surtout, on a pris un point de plus, voilà. Qu'est-ce qu'on prend d'habitude. Match nul pour le SCO ce week-end face à Poto Combo. Actuel 6e au classement, donc plutôt un gros. Et alors oui, c'est toujours pas une victoire, mais on y voit quand même du mieux depuis 3 semaines et depuis ces matchs après le mondial avec ils ont affronté les deux premiers avant, il a le 6e, 2 défaites de 3 buts, ici un match nul. En première partie de saison, c'était des défaites de 8-9 buts face à ces équipes-là. Donc on y voit quand même du positif. Maintenant ce match nul, il est rageant tant le SCO a dominé en deuxième mi-temps après avoir raté leur entame de deuxième mi-temps, ils ont pris 5-0 derrière et ils reviennent tout de suite. Il passe devant 3-4 buts d'avance et puis manque de lucidité en fin de match, un petit peu trop de jeunesse aussi parce que on utilise les jeunes crucial, je me rappelle le nom du coach m'échappe, mais donc il utilise ces jeunes mais peut-être un petit peu trop de jeunesse en fin de match et on laisse échapper ces 3 points qui auraient fait terriblement de bien. Maintenant face aux plus petites équipes qui arrivent, va falloir aller chercher ces victoires parce que le fond de jeu est là depuis quelques matchs.
Ouais, c'est pas forcément évident, mais bon, on va quand même y croire.
Ouais.
Au moins préparer cette. C'est bien de faire jouer les jeunes. Je sais pas ce que tu en penses, mais de faire jouer les jeunes dans cette saison un peu galère, c'est aussi de leur donner un peu d'expérience et déjà de préparer la saison prochaine, de se dire bon bah écoute, on descend, mais on prépare déjà le futur quoi.
Sachant que je sais Je crois que t'étais pas là quand j'avais sorti cette information-là. Pour l'instant, il y a aucun club de N1 Elite qui est capable de, financièrement de monter en Pro League. Voilà, le handball et les problèmes financiers. Donc, le SCO, pour l'instant, se maintiendrait malgré sa dernière place. Donc, ouais. C'est aussi travailler pour l'avenir, que ce soit avec une descente ou non. De toute manière, comme tu parlais pour le volet, c'est... On travaille aussi pour l'avenir.
Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que ça montre bien le problème financier, enfin le problème économique dans toutes les disciplines, même dans une discipline comme le handball, qui avec une équipe de France qui est très porteuse, enfin qui porte vraiment le et qui a un vrai rayon de soleil, un vrai rayonnement en tout cas dans le monde du sport. Ça montre bien qu'il y a des problèmes financiers et qu'il va falloir aussi réagir pour essayer de trouver des financements ou aider ces clubs à pouvoir progresser. Donc voilà, encore une fois, si des donateurs veulent aider les clubs sportifs, allez-y, n'hésitez pas, parce que je pense qu'ils en ont besoin. Et ça peut aussi donner soit du boulot, ou même ça donne aussi envie aux jeunes d'aller faire du sport. C'est eux qui viennent chercher les jeunes, la jeunesse, pour leur inculquer des valeurs qu'on peut aussi trouver grâce au sport. Donc je pense que c'est important de le faire. On va évoquer maintenant le SCO, SCO Foot, forcément, avec deux défaites, enfin une élimination dans un premier temps, une défaite ce week-end. On va y aller d'abord avec l'élimination. On va reprendre cette semaine qu'on a vécue ensemble. L'élimination face à Reims en quart de finale de Coupe de France. Mathéo, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre entre Angers et Reims?
Déjà, ce qu'on peut dire avant toute chose, c'est que c'était un match qui posait beaucoup de questions avant la rencontre. On savait pas du tout comment ça allait se passer. Le SCO avait battu Reims un peu avant, donc on venait en tant que favori, entre guillemets, surtout au vu des formes des deux équipes.
En plus, tu joues à domicile.
En plus, tu joues à domicile, Coupe de France, la magie. On sait que le SCO était en finale il y a peu, donc voilà. Le SCO était favori des bookmakers. J'ai regardé ça. Cote à 2,40-2,70, ça veut pas dire grand chose non plus, mais c'est quand même un indicateur. On aime toujours voir le SCO favori, surtout face à des équipes comme Reims. Le questionnement aussi par rapport à la composition. Donc on en a parlé un peu en off avec Amaury, mais c'est vrai que le SCO a fait tourner. Alors du coup, c'était plutôt, c'est plutôt selon toi, selon les dires d'Alexandre Dujeu, le SCO qui a fait tourner à Saint-Étienne en vue du match contre Reims.
Mais il y a eu un petit mélange, je pense, que ça a fait tourner un petit peu sur chaque match pour pas mettre une équipe B complète sur l'un des deux, quoi. Mais oui, c'était pas non plus une équipe B complète en coupe.
Après il y avait des blessés aussi, mais en soi la composition, ah oui, quand même, surtout en défense, posait un peu question. Et au final, ça n'a pas vraiment fonctionné pour le SCO. La première mi-temps a été quand même assez décevante, bien pris par des Rémois qui sont vraiment bons quand ils le veulent. C'est une équipe remplie de qualité, hein, Reims à tous les étages. Rempli de jeunes, et puis Nakamura, on l'avait dit aussi sur le match précédent en Ligue 1, mais il était de retour, Nakamura, donc c'est leur grand buteur, c'est le joueur qui explose cette saison du côté de Reims, donc c'était le danger numéro 1. Il a performé, Nakamura, donc c'est là aussi un problème. Le SCO a quand même, a eu un petit sursaut en seconde mi-temps, a su quand même faire les choses pour revenir au score, même s'ils prennent ce premier but qui est un peu dommage quand on revoit les images. Ito qui prend, allez, 10 secondes à faire sa passe et qui arrive quand même à la faire alors qu'il est pris par deux ou trois joueurs au milieu du terrain angevin. Donc voilà, il y a quelques regrets sur ce but, forcément. Maintenant, le retour, le but de Bamba Dieng est assez exceptionnel, magique, parce qu'on est passé par tous les étages juste avant. On parlait la barre, le raté de Nian. Voilà, je le dis avec un peu de regret, mais dans tous les cas, s'il y avait eu but de Nian, voilà, logiquement, il y aurait peut-être pas eu le but de Dieng.
Oui, bien sûr.
C'est un équivalent. Mais c'est vrai que ce match, c'est dommage. Globalement, si peut-être le SCO avait sorti une composition plus intéressante, entre guillemets, peut-être qu'on aurait pu faire largement mieux, sachant que c'était quand même assez prévisible le fait que les Rémois allaient nous surprendre, dans le sens où c'est une équipe qui a quand même beaucoup de fortes individualités. Quand on voit les sorties de banc, Moscardo qui rentre dans un match haché techniquement, assez pauvre, et que lui rentre avec toutes ses qualités, un jeune Brésilien prêté par le PSG qui joue pas beaucoup, mais qui rentre avec cette palette-là, c'était quand même assez impressionnant. Donc pas mal de regrets à ce niveau-là, c'était à prévoir. Maintenant, on en a un peu parlé dans l'émission aussi, mais Marius Courcol, qui a quand même bien performé, moi que j'ai trouvé assez intéressant.
Il est intégré dans le groupe maintenant, tout doucement. Hein.
Il a été là pour Reims. Il a toutes les qualités d'un joueur intéressant. Niveau Ligue 1, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais ouais, quand on arrive à trouver offensivement des jeunes latéraux, généralement, c'est plus ou moins bon signe quand même.
Ouais, mais après, en plus, ce qui est le plus fort, c'est qu'en 19, il ne joue pas latéral. Hein.
Ah non, bien sûr que non.
Il joue dans le cœur du jeu. Enfin, il est
la première fois que je le vois jouer latéral.
Mais il est incroyable. En 19, tu ne vois que lui sur le terrain. C'est incroyable. Amaury, ton ressenti sur ce match entre Angers et Reims?
Non, bah c'est, on l'a dit, hein, une première mi-temps qui a été ratée des Angevins, et c'est envie de dire, c'est là, même si tu prends pas ton but en première mi-temps, j'ai presque envie de dire que c'est là que tu perds ton match, parce que une bonne entame de match face à Reims, quand on voit le niveau actuel de Reims dans les matchs, aurait pu les mettre en difficulté grandement. D'ailleurs, tu fais ta deuxième bonne mi-temps, t'as pas réussi à être tueur, mais vu que la deuxième mi-temps est bonne, hein, on prend ce but, ma deuxième mi-temps est bonne. Et derrière, je l'avais dit la semaine dernière, j'ai pas envie d'aller au péno.
C'est vrai, tu l'as dit la semaine dernière, exactement.
Contre Reims, parce que ils sont passés deux fois au péno avant. Alors, ça aurait pu tourner dans les deux sens. Hein, c'est pas Reims, je suis pas sûr que Reims soit la meilleure équipe au péno. Mais bon, voilà, on est allé au péno et derrière c'est à la loterie et on perd. Bien dommage. Mais moi, ce qui me fait encore plus mal derrière, c'est la défaite de ce week-end.
Ouais, on va l'évoquer dans quelques instants. Faustin, ta réaction sur cette élimination du SCO?
Bah évidemment très déçu, vu toutes les attentes qu'on avait mis sur ce match, vu la forme actuelle de Reims, c'était clairement un match prenable et le SCO est passé à côté. Peut-être que sur cette séance de pénalty, on a aussi manqué d'un Yaya Fofana dans les cages, qui a déjà sorti un pénalty en Ligue 1 cette saison. Et après, c'est un raté de Nian. Remettre en cause le choix de le faire tirer, c'est un joueur qui en ce moment part en confiance, qui venait de rater une immense occasion juste avant.
Ouais.
Peut-être que mentalement, il n'était pas au top pour tirer ici un penalty.
Ouais, souvent c'est, je pense que c'est les coachs, enfin c'est le joueur qui dit je le sens pas. Et il a décidé d'y aller. Ouais, et malheureusement,
il est sacrément mal tiré. Hein.
Ouais, il est pas très bien tiré exactement. Mais bon, c'est
pour le coup. Les autres pénaux étaient magnifiques, hein, des Angevins.
Ouais,
entre Diel, qui met une pleine lucarne, mais il suffit d'un.
Mais tu le disais tout à l'heure, Amaury, sur le fait, quand tu parlais des conférences de presse, le problème, c'est que le SCO joue encore son maintien, même si elle était encore intégrée en Coupe de France, tu peux pas te permettre de faire tourner complètement ton équipe, comme on pourrait le faire dans FC 25, quand tu te dis, bon, allez, je vais jouer la Coupe de France, mais derrière, j'ai un match en bois en championnat, je fais tourner, comme ça, j'ai mes joueurs un peu frais, tu vois. Sauf que tu peux pas le faire en championnat.
Bah là, il y aurait peut-être
mieux. Et en plus, tu jouais Saint-Etienne juste avant.
Là, derrière, il y aurait peut-être mieux value vis-à-vis de Toulouse. Hein.
Ouais, c'est clair.
Non, mais. Et puis, Toulouse, c'est ton match charnière aussi pour savoir si la fin de saison va se passer tranquillement.
Complètement. Tu joues Saint-Etienne juste avant. Juste avant, tu joues Saint-Etienne qui est un concurrent direct au maintien. Tu te dis, pour parler un peu vulgairement, t'as le cul entre deux chaises, malheureusement. Tu sais pas trop quoi faire, parce que tu joues Saint-Etienne, tu dois prendre des points contre Saint-Etienne. Et si tu peux gagner, tu t'assures aussi quelque chose. Tu mènes 2-0, tu reviens 2-2, tu mènes 3-2, tu reviens 3-3. Enfin, c'est un truc de fou. Et derrière, tu joues Toulouse, qui est aussi une équipe qui, entre guillemets, qui peut être à ta portée, parce que c'est pas les cadors non plus du championnat. Et t'en prends 4, quoi. Donc la semaine, elle est
dure. La série, 3 matchs, 1 point pris. Bah, 1 point pris sur les 2 matchs, plus élimination. Je pense que...
Avant la série en cours, dont on a parlé la semaine dernière.
Mais c'est un scénario un peu catastrophe, quand même, pour le SCO. Hein.
Ouais. C'était à ça de bien se passer, en plus.
Au moins, si t'avais pris les 3 points contre Saint-Etienne, tu te mettais beaucoup en mieux, quand même, au classement. Là, franchement, c'est un scénario catastrophe. Derrière, il y a des équipes qui ont gagné ce week-end, mais on va en parler, je pense, après.
Ouais.
Mais au classement, t'as pas une marge qui est si énorme que ça. Donc,
non, 7 points sur la zone de relégation.
Ouais. T'as 7 points du Havre.
Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les fins de saison où tu sais que les petits, ils vont gagner des matchs face aux équipes de milieu de tableau, même s'il y a plus trop de milieu de tableau cette année.
Non, le Havre a gagné contre Lens, donc tout va bien. Donc,
on te sent un peu dérangé.
C'est bien de le prendre avec le sourire.
Un peu beaucoup, même. Quand tu fais 4-3,
c'est un beau match quand même.
Ouais, c'est un beau match. Ça dépend par dans quelle équipe tu te places, quoi.
Oui, c'est sûr.
T'es à domicile, t'en prends 4 par le Havre, j'ai envie de te dire, c'est un peu mal. J'ai mal dormi là, dans la nuit à suivre, quand même. C'était pas terrible.
En tant que Lyonnais, voir Diawara performer, ça m'a régalé.
Ça t'a régalé.
Merci à vous, à Milançois, de nous avoir donné un support.
Si on peut donner du bonheur aux gens. Hein.
Merci.
Cette année, c'est un peu ça. Nous, on donne du bonheur aux gens. On est là, on est généreux. C'est les valeurs du Nord.
C'est ce que j'allais dire.
C'est les valeurs du Nord. Là, on va passer donc on va aller un peu plus au sud, forcément, avec ce match contre. Un peu plus au sud, c'était toujours à Raymond Coppa, mais avec ce match contre Toulouse, donc 4-0, une belle fessée, on va dire. Hein, on peut parler comme ça. Mathéo, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match?
match loupé par le SCO de A à Z. Ça sentait dès les premières actions. On sentait vraiment que le verrou allait tomber dès les premières minutes. C'était assez étonnant. Alors il y a 0-0 à la mi-temps, donc le SCO s'en sort très très bien. Mais sur les premières incursions toulousaines, voilà, il y avait beaucoup d'espace. On avait quand même une mauvaise gestion du bloc en tant que tel, un alignement assez hasardeux. Peut-être que c'est dû à la fatigue. Je saurais pas vraiment dire à quoi c'est dû honnêtement, mais le SCO a mal joué son match. Ça c'est évident face à voilà un concurrent en termes de points qui est clair, même si Toulouse est une meilleure équipe que le SCO. Là-dessus, on peut pas le nier. Et surtout que Toulouse, c'est une équipe qui réussit mal à Angers. C'est une équipe aussi qui performe contre les plus petites équipes. C'est un peu la régularité de Toulouse de perdre contre les gros et d'aller gagner contre les petits. C'est aussi la force d'une équipe qui fonctionne bien. Toulouse, ouais. Je pense que en interview d'après match, le coach de Toulouse, on lui a posé cette question de savoir si Toulouse était une équipe niveau Europe. Bon, je ne pense pas quand même. Ne nous emballons pas sur cette équipe, mais on est quand même sur un entre-deux. Aujourd'hui, Toulouse est huitième, donc réalise une belle saison un peu dans l'ombre quand même, parce qu'on parle pas vraiment de Toulouse. On a l'impression que l'équipe se trouve dans le ventre mou, et c'est vrai. Mais arriver quand même dans cette huitième place où voilà derrière on a Lens, Lyon doit pas être très loin, doit être à 3 ou 4 points de Toulouse. Donc
non, c'est Lyon est sur 6e. 6 points le Lyon, 6 points devant, et t'as Strasbourg qui est 4 points devant.
Sachant que la septième place pour moi sera européenne.
Oui.
Je vois pas comment Paris peut perdre la Coupe de France. Donc du coup,
on a dit Cannes.
Non, la finale sera Cannes PSG, mais Paris va gagner la Coupe de France. Franchement, quand tu vois les 4 dernières équipes, tu te dis bon, il y a aucun monde où. Ou alors, ça serait quand même là, on serait dans la corruption et on a une finale Reims PSG et Nasser dit bon allez Jean-Bierre, je te la laisse, c'est pour toi.
Ce serait gros. Ouais.
Non, mais ça serait énorme. Mais du coup la septième place est potentiellement européenne. Là c'est Strasbourg. Bon, Lens est encore en Europe. Enfin, oui. Potentiellement peut encore jouer l'Europe. Je sais pas comment, mais c'est énorme. Mais Toulouse, ok, mais c'est pareil. C'est Toulouse pour aller en Europa League, enfin en Conference League. Ça me paraît léger.
Moi, j'aimerais bien que Paris la gagne. Ça donnerait une occasion un peu plus rapide à Marseille d'avoir un trophée si jamais ils finissent deuxième avec le trophée des champions. S'ils finissent deuxième.
Ouais, c'est fini ce deuxième, ouais. Parce que là, il y a du monde derrière qui pousse vraiment très très rapidement pour l'OM en tout cas. Amaury, ton ressenti sur ce match entre Toulouse et le SCO, enfin SCO Toulouse.
Alors, match que j'ai pas pu voir, mais il suffit de regarder les stats et pour comprendre. Le SCO a été complètement dominé. Il y a pas grand chose à dire. C'est vachement dommage parce que Toulouse, Mathéo en parlait très bien. C'est une équipe qui peut être, non, oui, normalement, est censé être au-dessus du SCO, mais il n'y a pas cet écart-là. Mmh. Mais le jeu de Toulouse, on le connaît, ils sont portés vers l'avant, et quand ça marche, par contre, ils sont capables de faire mal à beaucoup d'équipes. Mmh. C'est un match contre Marseille que j'avais regardé, où Toulouse, c'est une équipe, qui donne plaisir à voir jouer, en fait. On était content de les voir jouer, c'est beau. Et là, Angers a subi. Après, j'ai pas vu le match plus que ça, donc je pourrais pas en parler plus. Mais voilà, il y avait Lilian Raoulisoa en conférence de presse. Je vais en profiter parce que je peux les faire pendant un mois. Et lui est né à Toulouse. Arrivé à 2 ans à Toulouse, a été formé là-bas. Disait que c'était un match très important pour lui et qu'il avait hâte de faire un super match. J'aimerais bien le revoir en conférence de presse cette semaine, savoir ce qu'il a à nous dire dessus.
Bon, on va voir si tu auras les infos la semaine prochaine. Faustin.
Bah là, c'est clair que c'est un match où le SCO a complètement déjoué, s'est fait dominer de A à Z et a juste pas vu le jour pendant ce match. Ça, autant on a des 4-0 qui sont des fois un peu durs, là, il me semble parfaitement mérité. Donc, va falloir se remettre en question et voir ce qui va pas pour se remettre en route malgré le calendrier très compliqué qui arrive.
Ouais, c'est propre, net, ce 4-0, c'est vrai. Et tu parles du calendrier, t'as raison. Brest, on rappelle qu'ils vont se déplacer à Brest donc dimanche. Ils vont réceptionner deux fois de suite. Bon, c'est l'avantage, tu réceptionnes Monaco, Rennes et Monaco.
Dont Rennes qui est reparti sur une série.
Avec l'effet Bay, ouais, exactement. Et tu finis par cette série 4 matchs, par un match au Parc des Princes.
Voilà.
Bon.
Je veux dire que Monaco est un match où souvent Monaco on peut les voir flancher, ouais, contre des petites équipes.
C'est vrai.
Il va falloir miser là-dessus.
Et même après, il y a Montpellier en repos, en match absolument gagné qui est Mais derrière, t'as Nice et Lille.
Ouais, ah non, mais là, c'est
une fin de saison.
Ce qu'on disait la semaine dernière, tu joues au moins 5 ou 6 équipes du top 6-7. Donc, parce que tu rejoues Strasbourg en fin de saison, je crois, il me semble aussi. De mémoire, ouais, tu joues Strasbourg et Lyon en plus.
Ouais, ah oui, c'est bon. Match, ouais. En fait, c'est bon. Il reste Nantes et Montpellier de bas de tableau. Tu, sinon, c'est que
tu joues pas Marseille, mais tu joues le 1, le 3, le 4. Enfin, tu joues tout le monde, quoi. Donc, c'est énorme. Le 6 et le 7. C'est...
En fait, la belle série d'Angers en début d'année, on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est aussi parce qu'ils ont affronté des équipes qui devaient battre. Alors, ils l'ont bien fait.
Ouais, ils l'ont bien fait, exactement.
Ils l'ont bien fait, mais voilà, ils avaient intérêt à le faire.
En fait, les deux matchs abordables dans les derniers rencontres, c'est
Nantes et Montpellier.
Nantes et Montpellier. Et enfin, Nantes, c'est quand même le dernier.
Il faudrait essayer d'aller chercher au moins un petit match nul à côté sur d'autres matchs, parce que avec seulement deux victoires ou même pas forcément, parce que t'es pas sûr de les gagner, ça peut être compliqué.
Parce que le truc, c'est qu'en jouant les gros, enfin les équipes, les cadors, enfin du championnat, c'est qu'eux ont un truc à jouer. Eux vont se battre jusqu'au bout pour aller chercher une troisième, une quatrième place.
Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont rien à jouer hein, là pour l'instant.
C'est
parce
l'avantage
que avec la septième place qui risque d'être européenne, Strasbourg, Toulouse, ces équipes qui ont quelque chose à jouer.
Brest peut encore jouer. Brest, ouais. Non mais Lens, ils le jouent plus. Mais Brest, tu vois, Brest, ils le jouent ce week-end. Mais Brest, ils sont qu'à 4 points de Strasbourg 7e. Donc il y a toujours quelque chose à... Et après, c'est cette Ligue 1 à 18 clubs qui est vraiment pousse aussi à ça,
très compétitive.
Qui est très compétitive, exactement. Et quand si Paris trust en plus, si les équipes qui jouent en Ligue des Champions trust la Coupe de France, toi, tout ce qui est Paris, Marseille, enfin les équipes, voilà, les cadors, c'est sûr que ta septième place, ça va devenir.
J'aimerais bien, mais on n'est pas en Ligue des Champions, Flo.
Qualificative. Non, c'est vrai. Mais je parle de l'OM parce que pour l'instant ils sont deuxième. Mais tu vois, si l'OM avait été encore à la place de Paris Saint-Germain, ça laisserait quand même toujours la septième place ouverte, c'est vrai. Après, je t'avoue que je préférerais que ce soit Paris ou Reims qui gagne cette Coupe de France que Cannes ou d'ailleurs, je sais même pas comment ça se passe si Cannes gagne.
Cannes en coupe et fait les barrages de Ligue Europa. Barrage de Ligue Europa.
En N2, putain, ce serait énorme. Oh là là,
l'histoire. Ça a déjà été vu, hein.
Mais oui, mais
Nîmes à l'époque en 95, c'était qualifié en Ligue Europa. Parce qu'il avait joué la Coupe de France face, ça devait être au PSG, je crois déjà à l'époque, et justement à cette époque-là, la qualification se jouait sur l'autre finaliste.
Ah ouais, d'accord.
Et donc Nîmes, qui jouait à l'époque en National, avait joué les barrages de la Ligue Europa.
Après c'est quand même les barrages, quoi. T'es pas sûr d'y aller. T'espères affronter un très gros presque, parce que t'as aucune chance. Et comme ça, t'offres deux matchs de légende pour ton club.
Ouais, c'est clair.
Un déplacement européen en N2, je pense que c'est.
Eh, tu vas jouer.
C'est quelque chose. C'est l'événement du siècle.
Tu vas jouer en Turquie ou en Grèce.
Bah, tu fais comme Lens, tu joues contre le Panathinaïkos.
C'est incroyable.
Comme Marseille.
Belle saison.
Allez.
Bon, on en parlera tout à l'heure. On va parler de ton club juste après la pause.
Pause musicale. Il balance.
J'en profite là.
Il balance des petites punchlines sur le OM et sur le Racing Club de Lens. Mais juste après, on va parler de son club qui s'est quand même bien fait. Dont on a bien parlé pendant tout le week-end.
Non, on a gagné.
Oh, t'as gagné, mais t'as pas gagné sur tous les fronts apparemment. Ouais, et en parlant de front, on va voir ce que
front contre front.
Allez, Faustin.
Pause musicale, on va s'écouter pareil, du tout frais comme la semaine dernière, avec JRK, son album Zéro Bluff et son titre La Vida. 2K trap, bitch.
Je dois faire des hits pour que ma famille hit. Avant j'attendais ton appel, maintenant c'est toi qui m'appelles pour faire un feat. À chaque temps je me rapproche de la mort. Vu que ça pète, ça veut me jeter un sort. Très malin, surdoué comme Sandor. J'aimerais vendre mes œuvres comme Van Gogh. J'enfile la cape, je la mets pas en cloque. Car elle sait que JRK est au top. On s'écarte vers la Yendo. Grand écart, elle la prend en gros. Toi t'es chaud, que quand t'es en groupe. Je t'attrape solo et je refais ta coupe. T'es dans mon viseur, impossible que je te loupe. La confiance coûte cher, donc moi c'est mon cœur je loue. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de VL support, je lui fais une abida, ses copines me kiffent pas. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de VL support, je lui fais une abida, ses copines me kiffent pas.
Je veux que viseur, je veux ce qu'ils comptent des poulaillers. Des balles qui se perdent, je fais courir des grands dadés. Gros y'a pas de mystère, suffit juste de charbonner. J'ai pas de mystère, pétasse côté.
Goudreau dans la valise, client je fidélise, j'aime jusqu'à Galice. Ça tourne comme une hélice, à faire chez la nourrice, c'est jaloux, il maïs. Goudreau dans la valise, client je fidélise, j'aime jusqu'à Galice. Ça
ça tourne comme une hélice, à faire chez la nourrice, c'est jaloux, il maïs. Putain, je suis vénère, j'ai cassé la loque. Parano, faut pas qu'à 6h ça toque. Mon talent vaut cher comme le prix d'une pâtèque. Je fais tout pour pas finir à sec. J'ai rempli mon chargeur assurance touriste. Je veux chercher l'oseille pour celle qui m'a nourri. La rose a fané, mon cœur il a pourri. Je représente le 19 comme Amin Harid. C'est mon homme, si la canne et je ris. Avec les pensées du toit, mais j'ai. J'attends mon contrat, j'attends d'être égéri. Renoir, Guéné, élevé au riz. Numéro 10, j'envoie des ballons, je me fais un kiff. Le bol est dit tartine, je fais que des drifts. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de vie, elle se passe, je lui fais une abida, ses copines me kiffent pas. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de vie, elle se passe, je lui fais une abida, ses copines me kiffent pas.
J'fais que visseur, j'fais ce qui compte des poulaillers. Des balles qui se perdent, j'fais courir tes grands dadés. Gros, y'a pas de mystère, suffit juste de charbonner. J'ai pas de militaire, mais t'as ce côté passager.
Goudreau dans la valise, client je fidélise, rime jusqu'à
Galice.
Ça tourne comme une hélice, à faire chez la nourrice, c'est jaloux, il
maille.
Goudreau dans la valise, client je fidélise, rime jusqu'à
Galice.
Ça tourne comme une hélice, à faire chez la nourrice, c'est jaloux, il maille.
J'ai pas percé.
La Vida sur Radio G, sur le 101.5 dans Génération Sport. La Vida, un extrait de l'album Zéro Bluff de JRK. Voilà, j'ai bien retenu.
C'est fort.
Exactement. Comme ça, je vais pouvoir être moins bête quand mes élèves vont parler des nouveautés un peu musicales. Grâce à vous, je suis encore dans l'air du temps et ça n'a pas de prix.
Avec voilà. Plaisir.
Moi, je suis l'époque MC Solar et IAM, donc forcément, c'est pas la même chose. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Voilà, parce que il s'est passé quand même des choses.
Mouillez-vous la nuque.
Dans le monde de la Ligue 1, avant de parler du PSG Liverpool de demain et de Lille Dortmund qui a lieu ce soir, enfin de Dortmund Lille. Voilà, il s'est passé des choses pas très jolies, on va dire, ce week-end avec un coach de Ligue 1 qui a décidé de faire un front contre front suite en plus avec les péripéties de l'arbitrage cette semaine. Apparemment, les news n'étaient pas forcément arrivées du côté de Lyon et il est arrivé ce qui est arrivé, Mathéo.
Et oui, puisque dimanche à 15h, il s'est passé quelque chose au Groupama Stadium. L'OL recevait Brest et allait s'imposer 2-1 quand tout à coup l'arbitre est appelé par la VAR pour une situation potentiellement litigieuse signalée sur la dernière action de la rencontre. Un tournant clair, une situation particulièrement stressante et au final un peu inutile, voire anodine puisqu'il n'y a rien de signalé sur l'action. Ce fait de fin de match prend une tournure assez inattendue et choquante lorsque Paolo Fonseca, coach de l'OL, se dirige furieux vers l'arbitre avant de presque coller son visage à celui de Monsieur Millot. Un déjà averti et logiquement exclu ce geste d'humeur et celui de trop envers un corps arbitral déjà ébranlé par les propos récents du président de Marseille, Pablo Longoria. Une note de zéro dans l'équipe, mais surtout une potentielle suspension de 7 mois, lui qui n'est à la tête de l'OL que depuis le 31 janvier dernier. Une sanction qui pourrait s'étendre au continent européen, puisque la FFF, chez qui Paolo Fonseca est convoqué demain, risque probablement d'écrire à la FIFA pour que cette suspension soit effective dans toutes les compétitions auxquelles l'OL participe, incluant donc la Ligue Europa dans lequel l'OL est toujours en lice. Alors autour du plateau, que pense-t-on de ce geste, Amaury?
Là, tu me prends de court. J'ai même pas le mot pour décrire la sensation quand j'ai vu ça. J'ai été choqué. J'ai été choqué, ouais, en fait. Et c'est surtout qu'après ce qui s'est passé la semaine dernière où on a tous parlé, c'est remonté aux oreilles de tous les entraîneurs, évidemment. Il était au courant de ce qui s'était passé à Auxerre. Eh bien, voir quelque chose comme ça envers un arbitre, on pouvait pas s'y attendre. On pouvait se dire que tout le monde allait essayer de se taire un petit peu, de faire redescendre la tension. Et non, c'est tout l'inverse qui se passe. Et donc, Paulo Fonseca qui, à peine arrivé, tu viens de le dire, à peine reparti quasiment, parce que même s'il est pas viré par Lyon, il va pas pouvoir coacher pendant des mois et des mois. Tu parlais de 7 mois. C'est ce qui risque de tomber. De l'effroi, tu disais le mot, et c'est surtout très choqué parce que, on pouvait pas s'attendre à ça dans la période dans laquelle on était, où on disait, ouais, vraiment, faut calmer le jeu. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce qui s'est passé.
Faustin.
C'est clair que c'est des images qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, et heureusement. Et les sanctions vont être, évidemment, aux conséquences de l'acte. Donc j'espère vraiment que qu'il va aussi être démis de ses fonctions. Ce serait logique, je pense, pour l'OL de ne plus être affiché, j'ai envie de dire, même à la personnalité qui est Paulo Fonseca, qui devrait logiquement prendre une grosse peine. Et puis surtout, dans le contexte actuel, c'est incompréhensible de voir quelqu'un faire ça, quel qu'il soit, même chez les amateurs. Je pense que c'est arrivé moins ce week-end que les week-ends précédents, vu tout ce qui s'est dit, vu tout ce qui se fait en ce moment. C'est vraiment triste, j'ai envie de dire, même de voir un acte comme ça.
Ouais, moi je rejoins mes camarades forcément sur ce qui s'est passé. On devrait faire profil bas, et malheureusement t'as Paulo Fonseca qui fait cet acte, on va dire. Après, faut pas oublier qu'il est coutumier du fait, hein. En Serie A, il l'avait déjà fait en début de saison contre la Roma. Il avait déjà fait un beau front contre front avec un arbitre italien, donc c'est pas une première. Je pense que ça peut aussi jouer en sa défaveur.
Ah oui.
Même si forcément c'est pas la même ligue, mais bon, à un moment donné, les images sont là, donc tu le vois. Ce que je comprends pas trop, c'est que c'est un entraîneur qui vient d'arriver depuis 3 semaines, donc il peut même pas être dans une situation de stress. C'est un choix de Textor. En plus, il a été installé, tu vois. J'arrive même pas à lui trouver des circonstances atténuantes. J'espère réellement qu'il va y avoir un choix qui va être fait fort de la part de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire de se séparer de lui. Tu peux pas te permettre de pas avoir ton entraîneur principal pendant 7 mois. Pour moi, c'est une faute grave. Maintenant, on verra si il y aura du courage du côté de l'Olympique Lyonnais pour ce genre de décision. C'est sûr que c'est courageux de venir avec un chapeau de cow-boy du côté du groupe Ama Stadium. Maintenant, il faut faire la même chose, d'avoir du courage pour prendre une décision. Tu peux reprendre Pierre Sage, du coup, maintenant, je pense.
Ouais, mais après ce que t'as dit sur Pierre Sage, c'est compliqué. Hein.
Ah bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Oui, mais alors, Pierre Sage a donné une interview à l'équipe, lundi.
Il pense revenir un jour à Lyon.
Très bientôt à l'OL, et qu'il était toujours en bon terme avec John Textor.
Ah il le savait. En fait, il sentait que Paolo, il allait craquer.
Ouais, c'est ça, exactement.
On a envoyé des petits messages pour qu'il craque.
Ouais, à voir, mais...
En sous-marin. Ouais.
Mais franchement, de toute façon, faut trouver une solution, qu'il soit viré ou pas par Lyon. Il faudra quelqu'un pour assurer l'intérim. Tu peux pas l'avoir au haut des tribunes pendant 7 mois.
Non, c'est pas possible.
Ton coach, ça se fait sur un match, ça se fait pas sur une longue période. Donc,
ce qui est incroyable, c'est de se dire que ça arrive dans la même semaine. Oui. Quoi.
Ah, mais moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué, que ça arrive. C'est déjà très choquant, peu importe. Mais on l'a déjà vu. Je pense à une situation, c'était en Grèce ou en Turquie. À chaque fois, je confonds les deux championnats, mais où on avait eu pareil, un entraîneur qui était allé au milieu du terrain carrément pour faire front contre front. Mais arriver là, alors que tout le monde est sous le choc déjà de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ce qui a été dit. On a vu la sanction qui a été prononcée contre Pablo Longoria. Alors, on pouvait presque s'attendre à plus, mais on a vu la sanction qui est quand même assez importante. Faire ça derrière, tu sais que tu vas prendre...
Voilà, la sanction importante pour Longoria, oui. C'est 15 matchs.
Oui, mais ça change.
Enfin, t'es président, ça change rien pour lui.
Oui, pour un président.
Pour moi, c'est même pas une sanction.
Il a pas pris une amende aussi, en plus,
Je sais pas. Je sais pas si l'amende,
il a eu une amende. Oui, sûrement, anecdotique pour lui, j'imagine.
Je sais pas si c'est lui ou c'est le club qui la prend, c'est ça la différence.
Ah, oui, je sais pas.
Mais par contre, tu vois, pour la sanction de Fonseca, je pense qu'à un moment donné, quand tu vois dans le secteur amateur ce genre de fait, je pense que c'est plus d'un an de suspension. Mmh. Pour moi, c'était exemplaire dans le monde du foot, dans le monde professionnel. Tu fais exactement la même dans ces cas-là. Ça s'arrête pas à 7. Tu mets vraiment la même. En fait, et encore, tu devrais même prendre plus cher pour montrer l'exemple, en fait, parce qu'on voit qu'il y a tellement de dérives dans le foot amateur, d'un point de vue sur l'entente parfois entre les joueurs, mais avec l'arbitre, les dirigeants, les supporters. Enfin, t'entends des trucs, des obscénités chaque week-end. On est tous correspondants, quasiment autour de la table. Faustin bientôt, j'y crois, qu'un jour il le sera. Je fais un pressing en tout cas pour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on entend vraiment les choses le week-end. On entend que en fait, à un moment donné, on se retrouve avec des supporters qui insultent l'arbitre, peu importe la décision, dès qu'il y a une touche qui est mal sifflée. Enfin, c'est incroyable. Les joueurs parfois mettent un peu la pression aussi. Enfin, tu vois ce qu'on se disait la semaine dernière sur avant, normalement il devait y avoir que le capitaine qui parle. Là, tu te retrouves avec plein de joueurs qui arrivent. Fonseca, c'est Tolisso qui sépare Fonseca, mais t'as d'autres joueurs qui arrivent autour de l'arbitre aussi pour. On devrait savoir en fait se calmer les choses et apaiser les choses. Et malheureusement, il y a pas du tout ça. Donc, je sais pas quelle décision va prendre Lyon. Je sais pas vraiment. J'espère qu'il va y avoir c'est quand même un club emblématique du football français. Et j'attends à ce que ce club-là prenne une décision qui fasse exemple.
Bah pour l'instant, le problème, c'est justement le silence radio de Lyon hein, à ce niveau-là. Aucun communiqué, rien du tout. Et même juste à la fin du match, on a Cherki qui vient en interview pour justement dire « je soutiens mon coach ». Alors ça, c'est super, hein, mais ça prouve juste que le... Alors, de un, c'est maladroit. Et surtout, ça prouve que le club n'a pas pris en considération directement l'acte. Mmh. En toute logique, Laurent Prudhomme, donc, qui est notre directeur, sportif doit venir justement, et surtout il est venu en conférence de presse après, il est venu faire toutes ces discussions autour des réserves Reims, Brest, machin, et au final il va pas voir les joueurs pour leur expliquer, tu vas parler comme ça aux caméras, aux journalistes, et tu vas dire telle chose, qui serait logique en vrai dans la communication d'un club, sauf qu'aujourd'hui, comme on attend toujours de voir les choses, qu'on n'a plus de décisions fortes qui sont prises parce qu'il y a de l'argent derrière, etc., bah ça crée un problème comme ça de communication et juste de valeur pure et dure du sport.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que d'un point de vue communication, tu te retrouves avec... pour moi, en fait, comme tu dois forcément présenter un joueur à la presse à la fin du match, là, techniquement, le mec de la com devrait dire non, il n'y a pas de joueur, les joueurs, on vous l'envoie après. En fait, et pendant au moins les 5 minutes ou les 10 minutes à venir, dans le vestiaire, tu briefes tes joueurs en disant voilà, la communication du club, c'est celle-là. Oui, d'accord. En fait, on peut soutenir le, mais le geste est trop grave pour dire je soutiens mon coach. On peut très bien dire on diffère, on attend et on voit ce qui va se passer quoi. Et
l'interview, elle est juste après, mais sans doute la causerie dans les vestiaires, c'est-à-dire qu'elle se fait pas juste après le match. Elle est pas sortie de terrain, on prend un joueur et le joueur dit ça. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment Cherki en zone d'après-match qui vient voir les journalistes et qui dit ça. Et ça, pour le coup, ça m'a profondément étonné, surtout quand on sait l'institution qu'est l'OL, et surtout avec tous les événements récents. Je veux dire, alors après ça c'est encore autre chose, mais il y a des joueurs qui pourraient en plus utiliser ce sujet-là pour faire front un peu contre Fonseca par rapport au fait que Pierre Sage ait été viré un petit peu comme un malpropre aussi, parce que là on pourrait justement avoir une division.
Pour le coup, c'est pas la faute de Fonseca.
Non, bien sûr. Non, mais ça pourrait être un prétexte. Et justement, moi, ça m'aurait pas du tout étonné de voir un joueur comme Cherki qui est lyonnais, comme Lacazette qui est lyonnais, qui ont une affinité beaucoup plus forte avec Pierre Sage, utiliser ce prétexte-là sans le souligner. Hein, mais justement, venir et derrière dire c'est une honte. Et ça m'aurait pas du tout choqué. Et que ce soit pour ce sujet-là ou juste pour le sujet des valeurs, ça m'aurait pas étonné du tout. Et ça a pas été le cas, ce qui est encore plus choquant, je trouve. Ça accentue. On avait juste à rester sur DAZN pour voir justement ce sujet-là prendre encore plus en importance au sein du cadre lyonnais, et c'est un gros problème.
Et c'est là que la Ligue 1, je trouve, devrait, tu vois, tu dis qu'il n'y a pas de réaction de l'Olympique lyonnais depuis quelques jours là, et c'est là où en fait, je pense qu'ils attendent clairement demain soir pour prendre une décision aussi de leur côté, mais c'est là aussi que la Ligue 1 devrait accélérer les choses. Pour moi, en fait, dès dimanche soir, tu devrais savoir la sanction, ou tu vois, l'événement est trop grave et trop exceptionnel pour te dire, on attend 3 jours, 4 jours, tu vois ce que je veux dire?
Je pense que ça s'inscrit dans un cadre juridique aussi, c'est purement mettre en place les lois, les machins.
Déjà les trois jours.
Même lundi soir, c'est déjà.
Pour Longoria, l'autre fois, avec le mercredi, ils ont convoqué quelque chose d'exceptionnel, c'était censé être plus long, normalement, le jugement, pour se rendu. Et là, c'est pareil, c'est fait le mercredi soir. Normalement, selon un système traditionnel, ça aurait été encore plus long pour
moi. T'aurais pas ces gestes-là ou ces tentatives de trucs si demain t'avais une règle qui était clairement établie. En fait, il y a trop. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière sur les règles du foot. C'est trop sujet à interprétation. Et pour moi, dès l'entame de la saison, les coachs, les dirigeants devraient savoir. Voilà ce à quoi je risque. Voilà quels sont les risques si je fais tel geste, si je dis tel propos. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, et voilà. Le barème, c'est ça.
C'est tout.
Le barème, c'est voilà. Je fais front contre front avec un arbitre. C'est 1 an de suspension. Je réitère, je le refais une deuxième fois. J'ai fait 1 an de suspension, je recommence une deuxième fois.
5 ans.
Ouais, non, tu vois, tu dis 5 ans, mais ou on peut dire autre chose, tu vois, c'est clair, mais 5 ans, tu vois, tu peux dire stop. Stop.
Et en fait, il faudrait des sanctions sur des gestes comme ça. Ce soit pas que pour ce championnat-là. Ouais. Il faudrait que ce soit un truc avec la FIFA.
Uniformisé, bien sûr.
Il a fait ça en Serie A avant, il fait ça ici. Si là, il prend 1 an de suspension, que pendant 1 an, il puisse pas entraîner au foot. Parce que s'il est viré et qu'il va entraîner en Angleterre,
Ouais, bien sûr.
Bah, la suspension, bah, il va prendre son salaire, très bien. Il sera pas à Lyon, bah, il sera pas à Lyon.
Ouais, non, mais...
il faudrait que ce serait via la FIFA derrière qu'il y ait quelque chose.
De toute façon, la sanction va vers la FIFA, donc après.
Ouais. Moi, j'espère que c'est un truc qui l'empêchera d'entraîner pendant, et pas que à Lyon.
Oui, mais généralement, la FIFA, accepte, les recours comme ça de fédération.
Je connais pas, c'est pour ça.
Mais tu vois, les barèmes sont flous. Tu vois, par le passé, Ruffier avait s'était expliqué avec l'arbitre, mais sans l'insulter, en mettant les mains dans le dos, il avait pris 4 matchs. Et quand tu vois que parfois certains tacles où il pète la jambe d'un joueur, il prend que 2 matchs, voire 3, bah tu te dis bon, bah il y a, en fait, ça c'est pareil. Tu vois, il y a des choses que tu devrais améliorer dans ton arbitrage et dans tes sanctions, dans ta graduation, et faire en sorte que en fait, ça soit pas non plus. Bah, bien sûr, ça va peut-être stéréotyper un peu le jeu, tu vois, mais bon, je pense que on est assez autour de la table pour à aimer une fédération, enfin la NBA ou des sports américains où tu sais ce que tu vas risquer, quoi, tu vois, et tout a été fait pour aussi rendre ce spectacle un peu plus attractif, un peu plus beau. Et là, le problème, c'est que la Ligue 1 et le foot français se tirent des balles dans le pied toutes les semaines, quoi, toutes les semaines. Et quand tu vois hier, enfin Philippe Diallo, enfin hier, il se gargarisait d'avoir réuni tout l'ensemble des gens du sport français, enfin du foot français, pour parler autour d'une table. Mais non, mais on devrait même pas être fier de ça. Ça devrait être la normalité de se réunir et pour améliorer notre discipline et ça. Mais enfin, c'est incroyable. C'est incroyable.
Puis, au niveau du jeu stéréotypé, moi, je suis pas totalement d'accord. Enfin, je pense que ça peut même libérer certains joueurs.
Ouais.
Dans le sens où on l'a vu pendant des années, on le voit encore en Liga, par exemple, où quand tu joues des clubs comme Mallorca, comme Malaga, des petits clubs, t'as, je sais pas, un Vinicius qui va là-bas, il se fait hacher tout le match. C'est même pas intéressant, en fait.
Ouais. Complètement.
C'est pas du tout intéressant. Et sans doute qu'en Ligue 1, il y a un peu la même chose. Alors, c'est pas aussi marqué, c'est pas aussi visible, mais pour le football spectacle, le fait d'avoir des sanctions méritées et surtout justes, et équitable, fait que oui, le football peut redevenir intéressant. En tout cas, ça peut être une des choses justement à étudier pour rendre le football intéressant.
On verra dans les prochaines semaines si nos espoirs et nos attentes vont être entendus par l'ensemble du football français. On va rapidement faire pendant 3 minutes, juste faire un petit point pronostic pour la Ligue des Champions avec les deux clubs français. Et puis après, je vous laisse la main, messieurs, pour l'actu international. Dortmund-Lille, ce soir, votre pronostic simple, efficace, pour gagner du temps. Mathéo.
Waouh, c'est compliqué pour ce soir-là.
Ouais.
C'est un match à Dortmund.
Dans 13 minutes.
Ah, je vois bien peut-être une victoire de Dortmund ce soir. 2-1, Dortmund qui relance la machine. 2-1.
Avec ses rouillards aussi.
Et bien, j'allais dire exactement pareil, mais vu que Mathéo a dit ça, je vais dire un partout. Ce sera un poteau de Dortmund pour le deuxième but à la place. Un partout.
Un partout, d'accord, ok, Faustin.
Et moi, j'allais partir sur un petit 1-0 seulement pour Dortmund.
D'accord. Donc personne ne voit une victoire du
Pas ce soir.
Pas à Dortmund.
Mais il y a un retour. Il y a un retour.
Eh bien, c'est le supporter lensois qui va vous le dire.
Voilà.
Victoire de Lille, 1-0. On va avoir un gros coup de Pep Genesio ce soir.
C'est possible.
Le mur jaune va trembler.
C'est pas choquant. En soi, c'est du 50-50.
Exactement. C'est deux équipes qui peuvent se.
Puisque Dortmund est capable de tout. Sur le papier, ça serait pas choquant.
En termes de seeding, c'est Lille qui est favori.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, ils ont la chance de recevoir au retour. Donc,
voilà,
voilà. Allez, autre rencontre à pronostiquer, c'est la rencontre de demain soir. PSG-Liverpool, on prendra un peu plus le temps la semaine prochaine d'en parler parce qu'on sera en plus à la veille d'un.
Quelques minutes.
Donc on prendra plus le temps d'en parler, forcément, de ce match. En plus, ce sera du côté de Liverpool, du côté de l'Anfield. Amaury, ton pronostic sur PSG-Liverpool.
Comme ça, Mathéo me devance pas.
Voilà, c'est ça.
Deux buts partout.
Okay. Mathéo.
Oh, c'est dur. Paris-Liverpool, c'est impronosticable, honnêtement.
Alors, du coup, attends, je te laisse réfléchir, Faustin.
Okay.
T'as un pronostic ou pas?
J'essaie de réfléchir un peu. Allez, je vais être optimiste et je vais dire une victoire parisienne, 2-0.
Ah, il me le prend. Vas-y.
Moi, je pense que Paris peut le faire. Je pense que ça va être un match assez prolifique. Je vois bien Paris s'imposer 3-2, honnêtement.
Je vois bien
un petit 3-2 parce que c'est deux équipes qui marchent très très bien, donc prolifiques, mais pas par des erreurs, par juste des belles actions. Et je vois vraiment un match hyper intéressant demain. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hype sur un match de football.
Ouais, franchement, je l'attends aussi, celui-là. Je vois quand même. Je vais rester sur le 2 buts d'écart, mais je vais pas suivre Faustin. Je vais mettre sur le 3-1 avec un but de Bradley Brocoli. Pour faire non mais ça c'est quand même incroyable, les mecs, mais les Anglais sont vraiment mais teuteux au possible, vraiment, mais non mais ils sont débiles.
Ah oui, c'est génial.
Non mais c'est clair, c'est vraiment il y a bien que pour sortir ces genres d'âneries, quoi.
Oh là là. Et c'est ça, c'est autant avec Lille, j'aurais pu comprendre qu'ils sortent pas les noms, autant c'est PSG quand même. Ouais.
Bradley Brocoli. Putain, mais oh là là, ils vont oser. Bon messieurs, bon là on va se quitter sur la Ligue des Champions, mais je pense que vous allez forcément en reparler parce qu'en plus c'est forcément dans l'actu internationale, mais vous allez peut-être l'évoquer. Mais je vous laisse évoquer l'ensemble de ces sujets ensemble à Amaury. Et toi, Mathéo?
Eh ben, figure-toi que la Ligue des Champions, on la passe tranquillement, parce que sinon, on va pas avoir le temps.
je comprends.
Honnêtement, on en parlera plus longuement la semaine prochaine avec les résultats, puisque toujours pour rester dans le football, on a une affaire qui va peut-être bientôt se finir. Rappelez-vous, en 2015, puis en 2022, une affaire liée à la FIFA avait fait grand bruit à l'origine du fameux FIFA Gate, le début d'un feuilleton judiciaire incluant deux personnalités bien connues du ballon rond, Michel Platini et Sepp Blatter, respectivement ancien numéro 1 de l'UEFA et de la FIFA, une affaire qui commence dès 2015. Il est reproché à l'ancien président de la FIFA d'avoir fait un virement déloyal à Platini d'un montant d'1,6 million d'euros. Pas de contrat, mais une procédure pénale pour une gestion déloyale et un abus de confiance. Dès le début de cette enquête, les deux hommes sont suspendus de leur poste, renvoi pour jugement puis procès en 2022, qui donne son verdict le 8 décembre. Les deux hommes sont acquittés. Décision qui ne plaît pas à l'opposition composée du ministère public suisse et de la FIFA qui font appel. Procès en appel s'est donc ouvert hier et aujourd'hui fut une journée assez chargée. Au terme d'un réquisitoire de plus de 3 heures, le procureur de la République est clair. Les deux hommes sont coupables et ils doivent être condamnés à une peine de 20 mois de prison avec sursis, soit la même peine que demandée en 2022. Alors à voir désormais si l'accusation a su se montrer convaincante. Le procès, lui, durera jusqu'au 6 mars. Et puis on fait un petit crochet par le tennis avec le Masters 1000 d'Indian Wells qui a débuté hier, marqué par la suspension donc de Yannick Sinner, absent dans un tournoi qu'il avait quitté en demi-finale l'année dernière, vaincu par Alcaraz, un Espagnol tenant du titre qui tombe dans la partie de tableau de Djokovic qui pourrait affronter en quart. L'autre favori, c'est bien évidemment Zverev, tête de série numéro 1, dans la partie de tableau de Rune ou encore d'Hugo Humbert, qui jouera lui, Hugo Humbert, donc son 32e de finale vendredi. Du côté de nom français, donc Arthur Cazot et Théo Papamalamis, très compliqué à dire celui-là, ont été éliminés donc hier. Aujourd'hui c'est Constant Létienne, Terence Atman et Adrian Manarino qui sont sortis du circuit. De son côté, Hugo Gaston s'est imposé 6-2 6-4 face au japonais James Ken Trotter. Du côté des dames, la compétition a commencé dimanche avec Léolia Jean-Jean qui s'est imposée lundi 6-2 6-4 face à la thaïlandaise Mananchaya Sawag Kwaek. C'était le petit défi du soir, on n'a pas réussi malheureusement. Et donc Jean-Jean jouera ce soir face à l'américaine Hailey Baptiste, match à 23h heure française. Et puis du côté des favorites forcément, Sabalenka en est la leader, suivie de près par Iga Swiatek et Elena Rybakina qui réalise à elles deux un début de saison assez bon. Avantage donc pour la Kazakh qui pourrait bien créer la surprise dans un tournoi qui promet d'être fort. Intéressant. Et puis
moi perso je veux des nouvelles de Savan Kayev la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Voilà. Ça va devenir le running gag.
Attention, non mais elle est éliminée. Ouais. Donc on la reverra pas de sitôt et heureusement pour
la semaine prochaine, elle sera un autre tournoi, t'inquiète.
Il y a Masters, je crois qu'il y a Cincinnati à suivre derrière donc.
Non mais on va devenir des suiveurs de tennis thaïlandais. Moi, c'est ça. Bon, un petit mot de cyclisme quand même. On avait dit qu'on allait en parler avec Flo. Donc Philippe Gilbert, ancienne gloire du tennis belge, était l'invité des RMC Sport. Il a évoqué des propos tenus par Pogacar tout au long de la saison passée, une envie constante de gagner, le poussant à s'imaginer vainqueur des 3 grands tours la même année, voire même de tenter de remporter les 5 monuments. Donc je rappelle la composition de ces 5 monuments, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Flo, toi qui voulais en parler un petit peu, est-ce que c'est possible quand on connaît le bonhomme?
C'est largement possible.
Donc les 3 tours et les 5
tout la même année, ça serait incroyable quand même. Là, franchement, ça serait suspicieux.
Mais il en a déjà 4. Des
grands monuments.
Des grands monuments, il en a déjà 4. Ouais.
Il manque Paris-Roubaix.
Il manque que Paris-Roubaix.
Non, Milan San Remo, il l'a pas.
Il a fait 2.
Il a pas fait un Milan San Remo. Il a gagné le Tour des Flandres. Il a gagné.
Il gagnera Milan San Remo.
Il a gagné Liège. Il a gagné le Lombardie.
Il gagnera Milan San Remo. Il y a pas de souci.
Milan San Remo, en plus, c'est dans 15 jours. Donc ça va être mi-mars là. Ouais, mi-mars à peu près. Donc ça va arriver très très vite parce qu'entre temps t'as soit Pagani soit Tirreno. Donc il va se mettre en jambe dessus. Après, il a les qualités pour le faire. Maintenant, les 3 grands tours, pour moi, il aurait dû le faire l'année dernière. Il avait l'opportunité. Enfin, quand tu gagnes le Tour de Giro, quand tu gagnes le Tour de France, facile avec l'avance que t'avais. pour moi, c'était largement possible de faire le Tour d'Espagne. Et en plus, ça n'engageait pas tes...
Surtout qu'il a pas fait les JO.
Ouais, il a pas fait les Jeux. Le Tour d'Espagne n'avait pas non plus une grande, des rivaux incroyables. Enfin, voilà.
Au pire, il ratait.
Ouais, exactement. Au pire, il ratait. Au pire, tu vois, si tu rates et si tu fais tes 5 premiers jours, 6 premiers jours, tu te sens pas trop, t'abandonnes. Et derrière, tu passes sur tes championnats du monde et ton objectif, tu l'avais. Donc, pour moi, il a raté un peu le coche. Maintenant, il va le faire. Ouais, clairement, il va le faire. Peut-être pas cette année parce qu'il veut faire le doublé. Il veut gagner 2 titres de champion du monde et il veut gagner à Kigali, là, ça va être au Kenya. Pour les championnats du monde, donc l'année prochaine, quand le tour démarre en plus avec un chrono par équipe, clairement pour lui, parce que du coup son équipe va être axée là-dessus. Si tu prends déjà une minute sur la première étape ou 30 secondes, 45 secondes, tu lâches plus le maillot et c'est bon, c'est parti quoi. Donc voilà. Après, c'est sûr que le Paris-Roubaix va le faire, il va le gagner. Enfin, j'en ai aucun doute.
Allez, merci Flo, on va enchaîner sans perdre de temps parce qu'il y a encore pas mal d'infos avec de l'athlétisme et on commence avec un homme qui continue de repousser les limites, Armand Duplantis, alias Mondo Duplantis. Après une entrée réussie il y a 2 semaines à Berlin avec un saut à 6m10, le Suédois avait annoncé vouloir aller plus haut et il ne nous a pas déçus. À l'occasion du Clermont All-Star Perche, un événement organisé par Renaud Lavillenie, il a une nouvelle fois battu son propre record du monde en franchissant 6m27 dès son premier essai. Un exploit qui pose une question, jusqu'où peut-il aller? 6m35, 6m40 même selon Renaud Lavillenie. On verra, en tout cas il va passer centimètre par centimètre et il a bien raison, ça fait une prime à chaque fois. Ouais. On va passer au basket, nous, et plus précisément à l'Euroleague, où les clubs français ont connu une semaine en demi-teinte. L'ASVEL a concédé une nouvelle défaite frustrante face au Panathinaikos, hein, 96-93, avant d'enchaîner ce soir contre le Maccabi. Si quelqu'un peut me donner le score, c'est en direct, ça a commencé à 20h, ce sera parfait. En tout cas, le club villeurbanais Stein à la 15e place, a 3 victoires du play-in. De son côté, Paris a d'abord brillé en battant le Bayern, avant de chuter contre le Fenerbahçe. Malgré cette défaite, le club parisien reste solidement accroché à la 6e place. Enfin, Monaco a conclu la semaine sur une note négative avec une défaite contre Milan. Toutefois, le club de la Principauté reste 4e, bien positionné pour la suite de la saison. On reste au basket, mais on traverse l'Atlantique où les Dallas Mavericks vivent un véritable cauchemar. Ouais, Faustin, je te regarde. On se souvient tous du trade monumental qui a marqué cette saison. Anthony Davis contre Luka Doncic, un échange qui a divisé les avis. On parlait d'un potentiel gain pour Dallas à court terme. Et bah, ce gain, il s'est tout de suite arrêté. Anthony Davis, blessé pour son premier match. Et Kyrie Irving s'est gravement blessé à son tour. Ligament croisé touché, saison terminée. Un énorme coup dur pour Dallas qui voit ses espoirs de playoff presque s'envoler, car vu leur bilan actuel. Et on se demande même si les Lakers ont pas gagné, même à court terme, au vu de leur bilan depuis l'arrivée de Luka Doncic. On parlait de San Antonio la semaine dernière, on va en reparler très rapidement. On a Victor Wembanyama, fin de saison à cause de sa thrombose. Aujourd'hui, un autre coup dur pour les Spurs, mais un peu plus attendu. C'est Greg Popovich qui sera absent jusqu'à la fin de la saison, qui préfère se concentrer sur sa santé. Et bah, il a bien raison. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. On va passer à la Formule 1 avec les essais hivernaux à Bahreïn et le grand événement, c'est bien sûr Lewis Hamilton en rouge Ferrari. Il s'est monté très enthousiaste après ses premiers tours de roue et a déjà impressionné par son adaptation rapide à sa nouvelle monoplace. Pendant ce temps-là, Max Verstappen affiche un calme déconcertant avec une Red Bull qui semble encore au-dessus du lot. À suivre dans quelques jours pour le premier Grand Prix, ce sera en Australie. Côté patinage artistique, on n'en parle pas souvent, une surprise de taille, Guillaume Cizeron, champion olympique avec Gabriela Papadakis, fait son retour, mais avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier-Baudry. L'objectif est clair, participer au JO 2026 en Italie, un défi énorme car il nous reste moins d'un an pour se préparer. Mais le duo croit en ses chances, donc on leur souhaite le meilleur. Et on termine avec MotoGP où Marc Marquez a signé un record fracassant sous les couleurs de Ducati, le circuit de Buriram. Il a réalisé un week-end parfait. Pole position, victoire en sprint et en Grand Prix. Il s'impose devant son frère, Alex Marquez, tandis que moi aussi j'ai du mal avec les prénoms. Francesco Bagnaia complète le podium après un week-end compliqué. Fabio Quartararo lui a aussi souffert et obtient une 15e place pour le prochain rendez-vous en Argentine dans 2 semaines.
On t'en veut pas pour les longs termes, t'as sorti Papadakis très facilement. Donc c'était assez déconcertant. Donc on va le signaler. On se quitte là-dessus. Merci les garçons. On va forcément à Mathéo une dernière info.
Ouais, on va donner un peu parce que le premier tiers temps c'est fini pour les Ducs. Donc on va donner quelques statistiques peut-être avant de se quitter. Donc face à Chamonix. Donc 0-0 pour 0-0. L'instant pour 0-0, mais un match dominé par Chamonix. Donc on va voir ce que ça donne pour le reste de la rencontre, mais c'est pas gagné.
On espère une victoire pour les Ducs d'Angers. On en parlera forcément la semaine prochaine avec le PSG Liverpool. Enfin le Liverpool PSG au programme de l'émission. Ciao.